Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Mon invité ce matin, c'est Francine Robert, qui est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Alors, le texte n'est pas très facile, disons-le tout de suite, que nous allons regarder ensemble. Mais avant d'en faire lecture, on va se souvenir, pour être fidèle à ce que on s'est dit la semaine dernière, n'est-ce pas, qu'il y a un thème qui repose sur, en tout cas, c'est ma façon à moi de parler, sur deux rails, hein, le chemin d'un côté et Jésus en tant que prophète.
Oui, on s'est donné ces deux thèmes comme horizon de réflexion pour nous au plan du carême, qui est un temps privilégié pour unifier, je dirais, la réflexion qu'on fait à la fois sur Jésus et sur notre propre vie chrétienne. Dans les deux textes de ce matin, on sera dans la section que Luc a construite, qui est le chemin de Jésus vers Jérusalem, le chemin du prophète qui a reçu la caution de Dieu. On se souviendra du texte de la semaine dernière. Jésus comme étant l'élu, et Jésus qui, à 9:51, donc un peu après la transfiguration, Jésus qui, guillemets, durcit son visage vers Jérusalem, c'est-à-dire face à ce qui l'attend. Une citation d'Isaïe 50, verset 7.
C'était un des poèmes du serviteur.
C'est le troisième chant du serviteur choisi par Dieu pour témoigner de lui. Donc, c'est ça le sens du chemin que Jésus entame vers Jérusalem. Chemin du serviteur qui aboutira à sa mort. On s'était laissé aussi sur une remarque que j'avais lancée comme ça. Ça fait bizarre de désigner Jésus comme prophète. Je le constatais aussi dans mon cours lundi dernier. Les gens ont une réaction du type, c'est un titre à rabais, parce que pour nous, Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est pas rien qu'un prophète. Pourtant, Luc ne se prive pas de désigner Jésus comme prophète. Je rappelle 13:31-33, où c'est Jésus lui-même qui parle de sa marche vers Jérusalem en la désignant comme celle du prophète qui va mourir à Jérusalem. Et ça colore aussi la présentation que Luc fait de la mort de Jésus, ce qu'on verra le dimanche des Rameaux. La question que Luc me pose à moi, en tout cas, et peut-être nous pose comme agent pastoral, c'est pourquoi on est si réticent à multiplier les façons de présenter Jésus-Christ? Pourquoi limiter les angles, les façons de le proposer, puis rester à un vocabulaire qui finit par devenir comme des formules toutes faites? Même s'il est théologiquement vrai de dire que Jésus est fils de Dieu, on pourrait aussi dire autre chose. Ce que Luc fait, pourquoi pas faire comme lui, utiliser aussi d'autres vocabulaires, des typologies ou des modèles de référence qui pourraient être plus évocateurs pour les gens? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on craint tant que ça d'avoir des désignations qui nous paraîtraient moins, guillemets, honorables? Si Jésus lui-même se désigne comme prophète, si Jésus lui-même se désigne comme serviteur, je vois pas pourquoi on hésite à le faire, nous.
Les expressions viennent de lui aussi.
Oui, absolument. Ça, on les retrouve d'ailleurs
un peu partout,
absolument. Même que dans Luc, Jésus se compare à une poule qui veut rassembler ses poussins.
Oh, oui.
C'est pas une image qui nous viendrait à l'esprit. De même, dans les Actes aussi, c'est la confession de foi chrétienne, mais on va désigner Jésus comme le serviteur, le prince de la vie. Alors, il y a un appel à la créativité, là, pour nous. J'arrête sur ce sujet, mais on peut se rappeler que dans le deuxième texte qu'on aura aujourd'hui, Jésus est présenté comme un vigneron qui salit les mains avec du fumier, ce qui est aussi une image frappante. Donc, notre thème du chemin va être plus présent aujourd'hui. C'est un chemin de conversion, c'est des chapitres 9 à 19 dans Luc, un chemin de formation des disciples en plus d'être le chemin de Jésus, un chemin concret de vie chrétienne à la suite de Jésus. On aura deux récits aujourd'hui, dont le ton est très différent, je dirais le premier est inquiétant, l'autre moins. Les deux ont en commun le thème de la conversion, le premier c'est un appel pressant, comme on va le voir. Le second, c'est que la conversion doit porter du fruit. C'est deux récits propres à Luc, et c'est lui qui les met ensemble, donc on doit les éclairer l'un par l'autre. Alors, on pourrait peut-être entendre maintenant le premier de ces deux récits.
Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière.
Donc, c'est notre premier récit. Ça fait étrange d'entendre Jésus commenter le bulletin de nouvelles de la journée. Deux faits divers, qui sont pas banals quand même, deux tragédies collectives avec plusieurs morts. Et Jésus va les travailler, ces deux faits divers, en parallèle, dans sa parole. Il va chaque fois faire d'abord la même hypothèse pour expliquer ces événements. Il va ensuite la rejeter, cette hypothèse, de la même façon. Il va faire le même appel à la conversion et la même finale inquiétante. Vous périrez tous de même. Donc, c'est un récit qui est difficile.
Mais qui est sur le même schéma de base.
Ah oui, absolument. C'est vraiment construit en parallèle. On pourrait dire, à propos des deux événements dont il est question, que le premier a une portée religieuse très forte. Et il est particulièrement choquant pour les auditeurs de Jésus, puisque ça se passe dans le temple. C'est associé au culte. Ces gens sont tués pendant qu'ils offrent le sacrifice. Ça a une portée religieuse extrêmement forte. Et ça paraît particulièrement injuste si on attribue cette mort à Dieu, ou à tout le moins si on dit comment ça se fait que Dieu a laissé faire Pilate, ce qui d'ailleurs est vraisemblable du côté du personnage de Pilate. Il se permettait parfois ce genre de choses, peut-être pas à Jérusalem même, mais on sait qu'il l'a fait au moins chez les Samaritains. Le deuxième accident qui est lui amené par Jésus comme exemple, la tour de Siloé, c'est un accident bête. Là, c'est comme le viaduc. C'est tout bête.
Ouais, le premier événement, il y a une volonté humaine.
Oui, Pilate.
Extrêmement cruelle. On lit ça, nous autres, dans la liturgie, on enveloppe ça, tout ça. Mais est-ce qu'on est conscient de c'est vraiment quelque chose de très d'effrayant.
Oui.
Alors que le deuxième événement, en termes d'assurance, c'est act of God, quoi.
Oui, oui, hein? c'est ça. Ça paraît comme ça, en tout cas. Personne n'y pouvait rien. Aujourd'hui, c'est évident qu'on chercherait quel est le constructeur responsable ou l'architecte qui a mal fait son boulot. Il reste que ces deux événements-là, ils frappent l'imagination. Les gens en parlent entre eux, comme on fait aujourd'hui d'ailleurs.
On peut pas rester indifférent.
Non, c'est ça. Et bien sûr, les gens viennent chercher auprès de Jésus un écho à leurs besoins de sens, hein, pour contrer cette espèce de sentiment d'absurdité. On pourrait dire que Jésus ici est vu un peu comme maître de sagesse, conseiller. Et leur question, la question que les gens se posent, qui est sous-entendue, on se les pose aussi. Hein? Pourquoi certains sont tués, d'autres épargnés? Pourquoi lui, puis pas moi? Pourquoi ça m'arrive à moi, pas à l'autre? Pourquoi ces morts absurdes? Et c'est des questions qu'on se pose devant des catastrophes naturelles qui font des centaines ou des milliers de morts, devant un accident de voiture trop bête, devant la maladie mortelle d'un enfant. C'est un texte difficile parce que ça touche des questions profondes et que ça nous plonge, ce genre d'événement-là nous plonge dans un sentiment d'absurdité. Et donc, ça pose la question du sens de la vie humaine. Et bien sûr, à cette époque-là, toujours, et aujourd'hui souvent, ça pose aussi la question de Dieu. Un peu comme Saul, vous vous rappellerez de Marc Favreau, disait « Comment est-ce qu'on peut croire en Dieu quand on voit tous les malheurs qui se produisent? »
Alors, devant l'absurdité, l'intelligence humaine ne peut pas l'accepter.
Non, ça
alors,
bloque.
On cherche, il faut une explication.
C'est ça. Quelle qu'elle soit, on en veut une.
Et si je vous comprends bien, l'explication facile, c'est
Dieu.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
C'est ça, exactement.
Bon.
C'est Dieu. D'ailleurs, c'est de l'instinct religieux naturel, hein. C'est tout à fait pré-biblique, pré-évangélique. Si on n'a plus d'explication, c'est Dieu.
Ça,
c'est de l'instinct religieux à l'état pur.
Bon.
Jésus répond aux gens d'abord en reflétant leur interprétation, celle-ci qu'on vient de dire, mais que les gens n'avaient pas dite. Jésus l'a dit, vous pensez que Dieu est l'auteur de ces événements. Or, Dieu est juste, donc les gens qui ont été tués devaient être de grands pécheurs, Dieu les a punis. Et la violence de leur mort est donc proportionnelle à la gravité de leur faute. En forçant les choses, on dirait, oh, c'est des victimes, oui, mais c'est des victimes coupables. C'est leur faute.
C'est facile.
C'est une certaine...
C'est ça. C'est facile.
Et c'est une certaine image de Dieu qui fait démiurge, hein. Par contre, juste en termes psychologiques, c'est un réflexe qu'on peut comprendre, parce que si le malheur est arrivé aux gens à cause d'eux, si moi je fais tout ce qu'il faut, ça m'arrivera pas. Et du coup, ces événements-là qui nous renvoient à notre fragilité, ben on se protège en disant non, je suis pas si fragile parce que je fais tout ce qu'il faut, je fais attention, je me conduis comme un juste, et donc ça ne m'arrivera pas. On veut pas de notre fragilité. On n'aime pas donc ces événements qui nous rappellent que ça aurait pu être nous, finalement. Alors, donc, Jésus formule cette hypothèse-là et la rejette aussitôt. C'est même pour ça qu'il la formule. Vous pensez que non. Ces gens tués, dit Jésus, sont pas plus coupables aux pécheurs que les autres, sous-entendu que n'importe lequel d'entre vous. Cette mort absurde n'est pas, comme le dit les assurances, act of God. C'est pas un châtiment divin. Et il le répète deux fois. De sorte que Jésus brise une sorte de chaîne de fatalité, là, espèce d'enchaînement inévitable, culpabilité, châtiment. Jésus casse ça. C'est pas étonnant d'ailleurs dans Luc, où le thème du pardon est absolument majeur, c'est un thème majeur du visage de Dieu. Pensez juste à Luc 6:36, « Devenez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux ». C'est sa façon de présenter Dieu, la miséricorde. Alors, ça casse l'enchaînement inévitable. Je suis coupable, donc je suis puni. Il faut s'en souvenir, donc, quand on pense comme ça ou qu'on a le même réflexe. Même si, curieusement, on préfère encore penser que les malheurs qui nous arrivent sont des punitions plutôt que de vivre avec le sentiment d'absurde. Et ensuite, Jésus utilise ces événements qui font choc sur les gens pour lancer un appel pressant. Et là, il parle comme un prophète. « Convertissez-vous ou vous périrez de même. » J'arrive même pas à avoir le ton qu'il faudrait. On entend une voix forte là chez Jésus et il le répète deux fois. C'est une phrase dure, c'est une phrase radicale qui est difficile à comprendre. On peut en dire d'abord une première remarque. Il invite les gens à lire les événements comme des signes des temps. Voyez ce qui arrive et réfléchissez. Je vous ferai remarquer que dans Luc, le texte qui précède est aussi un appel à discerner les signes des temps, à voir ce qui se passe et à réfléchir. Donc, on est dans cette dynamique-là, dans cette série de récits de Luc. Donc, cessez d'évaluer ceux qui sont morts, dit Jésus, et réfléchissez sur vous-même. Regardez-vous vous-même. Vous voyez comme on est fragile, comme on est vulnérable. Je dis « on » parce que Jésus peut s'inclure là-dedans. Il se sait lui-même fragile et vulnérable. Donc, c'est comme s'il leur disait « ça devrait vous donner à penser ». La question n'est pas « pourquoi moi ou pourquoi lui », mais « est-ce que ma vie a un sens assez pour que ma mort ait un sens ?» C'est comme si Jésus disait ce que des philosophes vont dire aujourd'hui, la perspective de la mort donne tout son sérieux à la vie et à la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est ce qu'on constate d'ailleurs chez des gens qui ont frôlé de près la mort ou qui ont touché de près leur propre vulnérabilité. La question du sens de leur vie est assumée autrement et avec un sérieux, je dirais, constant, quotidien, et en même temps avec une sérénité qui est toujours impressionnante. Donc, Jésus qui invite à réfléchir ne dit pas, là on a une manière de comprendre la phrase difficile qui pourrait être perverse, je dirais, Jésus dit pas « convertissez-vous ou vous mourrez de la même manière », mais « vous périrez ainsi ». Il dit pas « convertissez-vous, je vais vous faire mourir comme ça, de mort brutale », mais c'est le verbe « périr » qui est là, qui ne signifie pas « mourir », pas toujours, mais qui, curieusement, pourrait signifier plus que « mourir », c'est « se perdre ». c'est se détruire, c'est perdre toute référence à un but, à une identité, à la signification de sa propre existence. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, de façon symbolique, dans la parabole de la semaine prochaine, où le père, parlant du fils prodigue, va dire « Mon fils était perdu », c'est le même verbe, on pourrait traduire,
et non pas, était,
était
mort.
En train de périr, okay. Ou était périssant, ou avait péri, s'était perdu lui-même, il avait, au fond, tout perdu, perdu le sens de son existence. « Mon fils était perdu et il est retrouvé ». Et, de façon synonyme, il va ajouter « Mon fils était mort », mais on voit bien qu'il ne s'agit pas de la mort physique, mais peut-être pire, d'une certaine manière. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, dans une phrase qui est propre à Luc 9, 25, et une phrase là, qui rejoint des questions qu'on se pose aujourd'hui. « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il se détruit lui-même, ou s'il se perd, ou s'il se fait périr lui-même ?» C'est le même verbe qui est là. Alors que chez Marc et Matthieu, on a « s'il perd son âme » qui est plus familier. Donc, on pourrait dire que l'approche ici est plus existentialiste, même si c'est un anachronisme d'employer ce mot-là, on est plus proche de la culture grecque où la question de l'absurdité de la vie se pose. On pourrait dire que quand Jésus lance un appel fort à la conversion ici, il réaffirme ce que tout le Nouveau Testament dit, ce que la foi chrétienne et même la foi juive croient, c'est-à-dire le contraire d'une vie absurde, d'une vie qui se perd, qui se détruit elle-même, c'est une vie comprise comme la rencontre de Dieu, c'est une vie comprise comme un chemin vécu avec Dieu, un chemin où Dieu nous appelle à devenir toujours plus. C'est là que la vie humaine trouve son poids et son sens. Alors, c'est comme si Jésus disait ici, ces tragédies vous frappent, très bien, ça vous sort de votre routine, demandez-vous sur quoi votre vie est fondée, sur quel chemin elle est orientée. Est-ce qu'elle est enracinée dans le don de Dieu? Et posez-vous la question, ça presse. Le ton de Jésus dit l'urgence. C'est intéressant pour nous, c'est une question qu'on peut se poser aussi en temps de carême. Le ton va être tempéré par le récit suivant qui doit être lu avec ce récit. C'est une parabole. C'est un texte donc un peu moins brutal, une pédagogie plus ludique, je dirais. On va entendre ce second texte.
Jésus leur disait encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. »
Alors chez Luc, dans les 3 synoptiques, mais particulièrement chez Luc, il y en a beaucoup, la parabole, elle est un moyen d'aider les gens à réfléchir sans provoquer tout de suite un réflexe de défense. Elle met toujours en scène aussi, la parabole, une situation qui est familière pour les gens. C'est fréquent de planter un figuier dans un vignoble et on s'attend à ce qu'il porte du fruit sans beaucoup de soins. Un figuier n'a pas besoin de beaucoup de soins. Mais les paraboles font toujours déraper aussi le quotidien, un peu comme les accidents faisaient déraper la routine dans le texte précédent, je dirais. Alors ici, le dérapage, c'est la réponse du vigneron qui surprend. Pourquoi elle surprend? Parce que le maître est justifié d'attendre du fruit. Le figuier qui est là et chez qui le maître vient vérifier depuis 3 ans qu'il donne du fruit, ça veut dire qu'il est là depuis au moins 5 ou 6 ans. Et donc, il devrait avoir porté du fruit. Le figuier, ça produit facilement. Et donc, la décision de le couper, elle est justifiée aussi, puisque le figuier, ça épuise le sol, comme le dit bien la parabole. Donc, la réponse du vigneron, elle surprend. Le vigneron dit quoi? Il dit, donne-lui une chance encore, et je vais lui donner plus de soins que ce que je devrais normalement. Et le vigneron dit, j'espère que ça va l'aider à porter du fruit. Bon, si le figuier porte pas de fruits après ça, tu le couperas, mais attends, attends. Un peu comme si le figueron avait, le vigneron, pardon, avait de l'attachement pour cet arbre-là. Peut-être que nos auditeurs jardiniers vont comprendre ça, on s'attache à ce qu'on cultive. Donc, c'est une intercession de la part du vigneron pour le sauver, ce figuier. Et c'est aussi un engagement intense à agir lui-même, c'est-à-dire à faire des efforts. Cette intercession rappelle des grandes figures d'intercession dans l'Ancien Testament, comme Moïse qui intercède auprès de Dieu dans l'histoire du veau d'or, par exemple, ou Abraham qui intercède et qui négocie même avec Dieu à rabais dans l'histoire de Sodome et Gomorre, c'est Genèse 18, le veau d'or, Exode 32. Les prophètes vont intercéder aussi, comme Jérémie, Amos. Donc, ça situe là encore Jésus dans la lignée des intercesseurs. C'est plus qu'un délai pourtant que Jésus demande, c'est le vigneron, mais que je vous propose de lire comme figure de Jésus. Il s'engage vraiment à produire des efforts lui-même, comme si cette parabole nous rappelle que Jésus incarne la sollicitude active de Dieu. Dieu ne fait pas que nous appeler à la conversion, il essaie de nous aider à nous convertir, il y travaille pour que notre vie ne périsse pas, finalement.
J'ai pas Dieu, mais Jésus, si on veut.
Mais Dieu aussi, finalement, ouais, puisque la pratique de Jésus, elle est révélatrice du projet de Dieu pour nous.
C'est parce que moi, je voyais
Dieu comme
étant le maître.
Voilà.
Peut-être que je colle trop à la parabole. Là.
C'est correct.
Jésus qui, justement, qui intercède et qui...
C'est vrai. Mais à ce moment-là, on pourrait dire que ça montre bien l'ambiguïté de nos figures de Dieu. On le voit comme juge sévère. C'est le Dieu sous-entendu dans l'esprit des gens du premier récit. Et c'est Jésus qui essaie de nous montrer que Dieu est pas comme ça. Alors, d'une certaine manière, dans ce cas-là, on pourrait dire que la parabole met en scène deux images de Dieu qui se parlent, Dieu qui négocierait avec lui-même. C'est intéressant aussi cette idée, si je pousse un peu plus loin, que Dieu espère. L'espérance est peut-être une vertu théologale pour nous, c'est peut-être aussi une qualité de Dieu qui espère en notre conversion. Sur la conversion, un dernier mot.
Je vous ai peut-être trop vite arrêté, mais ce que vous disiez, c'est qu'il est très actif. Jésus est très actif, ne se contente pas. C'est le vigneron qui dit, je vais m'en occuper, moi, du figuier.
Oui,
là.
Voilà. Je l'appelle à se convertir, je l'appelle à porter du fruit,
mais je vais travailler moi-même.
Je vais collaborer avec le figuier.
Je vais brasser la terre, je vais mettre du fumier, je vais l'arroser.
Exactement. Donc, je vais travailler, quoi. C'est ça. Travailler fort. Jésus qui se met les mains dans le fumier pour qu'on porte du fruit. Le thème de la conversion ici, pour amener cet aspect-là de la parabole, c'est donc plus que se tourner vers Dieu. Alors ça, je reviens au point de vue du figuier, enfin de ce qu'il symbolise, c'est-à-dire nous, on pourrait dire comme ça. La conversion, c'est pas seulement se tourner vers Dieu, mais c'est porter du fruit. Pour Luc, c'est très concret, la vie chrétienne, ça se traduit dans des fruits concrets. On se rappellera Jean-Baptiste, hein, tout arbre qui ne produit pas un bon fruit sera coupé. Jean-Baptiste, dans Luc, Marc et Matthieu, qui est présenté comme ça. Mais ici, on doit donc porter du fruit concrètement, et Jésus va essayer de travailler pour nous aider à porter du fruit. J'ajouterais peut-être, simplement puisqu'on est en carême, qu'on pourrait se demander quel fruit nous allons porter cette semaine. Ça peut être soit ça, soit la question du sens que nous donnons à notre vie, soit les deux.
Bien. Alors, vous venez d'entendre Francine Robert. Je rappelle qu'elle est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal, à la technique Kim Tanguay. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.